ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Il nous a dit qu'il n'y aurait aucune question à laquelle il ne répondrait pas, qu'il faisait de même en interne chez Alma. C'est parti pour l'interview de Louis Chatriot, une interview fractionnée en 2 temps. Une première partie dédiée à l'entreprise La Scale Up Alma, la seconde sur l'un de ses 2 fondateurs. Bonjour Louis.
Bonjour Thomas, bonjour Olivier.
Salut Louis.
Olivier, on démarre avec le moment que tous les entrepreneurs attendent derrière leurs écouteurs, c'est celui où tu présentes notre invité.
C'est mon moment journalistique. Écoute Louis, on est ravis de te recevoir. Tu fais partie des gros succès actuels qui cartonnent dans la French Tech. Et puis en plus, moi étant très investi dans Isaïe, j'ai suivi aussi l'histoire puisqu'Isaïe était et est toujours un investisseur de Alma. Donc Alma, c'est une start-up qui n'est plus une start-up, non, une scale-up qui a été créée par Louis Chatriot ici présent avec son associé Guillaume Desloges. Et donc Alma fournit des solutions de paiement fractionnées et différées. C'est pour ça qu'on a beaucoup de jeux de mots autour du terme fractionné, musique fractionnée, interview fractionnée.
Des jeux de mots avec Alma, les Alma Managers, l'Almatinal, tu vois, donc on est chacun son truc.
On va bien rigoler pendant cette session. Alors on appelle ça aussi le Buy Now, Pay Later, on entend parfois cette acronyme BNPL. Alors, vous avez levé 210 millions d'euros cette année, en début d'année, je crois février, 115 millions d'euros en capital, enfin en equity, et 95 millions d'euros en dette, tu pourras me corriger à la fin sur les chiffres. Je crois qu'il y avait aussi une levée de 49 millions d'euros l'année précédente. Donc voilà, il y a plein de fonds d'investissement parmi les plus connus, KT Innovation, Euraseo, BPI France, Picus Capital, Tencent, GR Capital, enfin je pense que j'en oublie, mais voilà, c'était avec notamment voilà, des investisseurs à la fois français et internationaux. Il y avait un objectif qui était déjà annoncé lors de ta levée précédente et qui est encore, je pense, le cas sur votre feuille de route, internationaliser l'activité déjà en Europe. Plus spécifiquement, je crois que vous êtes déjà en Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, et donc je crois qu'il y a un peu d'accélération sur ces marchés-là. Il y a aussi une nouvelle application, je ne sais pas où elle en est, mais qui est le Direct to Consumer, qui permet de payer en plusieurs fois, même chez les marchands qui ne sont pas clients en fait hein, et partenaires d'Alma. Ça m'intéressera du coup d'en parler aussi, de voir un peu qu'est-ce que c'est que la différence avec le crédit consommateur du coup quand on est du côté du consommateur. Et aussi il y a toujours ces questions qui nous intéressent de risque de surconsommation ou de surendettement à partir du moment où on est en train de pousser la consommation avec des solutions de facilité de paiement. Il y avait plus de 6000 partenaires marchands, c'est peut-être davantage encore quand j'ai repris l'information, parce que là c'était aussi les bilans de début d'année 2022. Il y avait des grands clients, Alain Flelou, Etam, Galerie Lafayette, Printemps, Encore Store, qui sont nos amis qu'on n'a pas encore intéressés interviewé dans le 40 Nuances de Next sur les deux Nicolas. Plus d'1 milliard d'euros de volume de transactions annuelles. Tu nous disais qu'il y avait pratiquement 400 salariés, donc pour ceux qui pensent que la French Tech ne crée pas d'emploi, c'est un des beaux contre-exemples. Avec également un triplement du volume d'affaires chaque année sur un marché qui est estimé à plus de 20 milliards. Mais du coup, ça m'intéressera aussi de savoir de quel marché on parle, parce que effectivement, dès qu'on parle de marché, ben, y a le marché adressable et peut avoir différentes définitions possibles. Et peut-être que si, puisque c'est sans tabou, il faudra peut-être aussi parler de la concurrence et de voir qu'est-ce qu'on a le droit d'en dire. Il y a un géant, disons, qui s'appelle Klarna, qui est un peu comme ça dans le viseur. Et voilà, merci à toi encore.
Et bien allons-y.
T'es prêt? Pour démarrer, on t'a demandé de choisir une musique pour nous parler de l'histoire d'Alma. T'as choisi une musique, en tout cas, toi qui te donne la pêche, qui te permet aussi de travailler de manière plus productive. Alors moi, je connaissais pas, ça s'appelle Infected Mushroom.
Alors c'est un groupe, après je peux choisir la chanson, mais c'est vrai que je suis pas sûr que 100% d'Alma se reconnaissent là-dedans,
pour être clair,
mais moi en tout cas c'est le cas.
En tout cas, quand ils te voient hocher légèrement la tête, concentré sur ton écran, potentiellement, voilà. C'est ce qui est...
Exactement, ça se repère très vite. Alors, ils ont la particularité d'avoir quand même, ça dure entre 10 et 15 minutes chaque morceau. Hein.
Mais de toute façon, je pense qu'on va faire toute ton interview.
Avec une musique craquée pour moi. C'est moi qui craquerai en premier.
C'est le jeu de baisse pas les yeux.
Moi, je vous ai amené quelques champignons hallucinogènes à consommer pendant l'interview aussi, pour compléter.
Ce sera parfait pour la réunion par un prof qui m'attend juste après. Exactement ce qu'il faut.
Je laisse tourner un peu juste pour qu'on se mette dans l'ambiance, concentré.
Moi, j'y suis là, j'y suis bien.
C'est pas mal celle-là.
Ouais.
C'est pas mal.
Ouais, j'aime bien. Donc là-dessus, tu bosses sur quoi? Sur tes rapports aux invests, sur les
parce
projets de développement à l'international.
Ce que nous disait Louis, c'est qu'il a aussi une formation d'ingénieur, il fait aussi du code et développement, et c'est vrai que c'est des métiers spécifiquement sur lesquels on doit réfléchir à la capacité de concentration, qui est d'ailleurs une vraie question dans les
c'est
open space.
Tu vois, c'est vraiment la question de la zone, si tu veux. Et d'ailleurs, ça peut être un plug intéressant, mais quand tu codes en particulier, tu as cette notion de la zone qui, en fait, tu arrives dans un moment où tu réfléchis hyper vite, tu comprends le truc, et ça marche quand tu arrives à te couper de tous les stimuli externes. Donc, t'es l'homme face à la machine, quoi.
Ça, c'est pas un stimuli externe, c'est
non,
vraiment...
justement, c'est assez pour te couper et pas trop. Une chanson avec des paroles, après, chacun a son truc, mais chanson avec des paroles, je peux pas me concentrer. Donc là, typiquement, c'est les moments où t'as envie d'être vraiment dans la zone, que ce soit. Alors, malheureusement, je code plus chez Alma depuis plus de 2 ans maintenant, mais tu vois, quand tu commences à vouloir, genre, enchaîner, t'as 300 emails en retard, enfin, tous les trucs un peu, parfois un peu chiants qu'il faut faire, tu te mets ça, tu le mets fort, t'y vas, et franchement, ça aide. Et nous, c'est un peu une culture qu'on essaie de créer d'ailleurs chez Alma au global. C'est un peu, tu sais, on vit dans une sorte de monde qui est le monde de l'instantané, du temps réel. Et j'ai vraiment une haine féroce pour la dictature du temps réel. Tu vois, c'est un peu le côté, il faut que je laisse toutes mes notifications allumées. Je suis en train de bosser, j'ai un call, mais en fait, il y a un truc qui arrive qui est plus important.
C'est toujours plus important que le truc d'avant.
C'est juste urgent, c'est le petit shot de dopamine. Mais en fait, si tu veux, le problème, c'est que les outils dont je parle, tu as des WhatsApp, des Slack, des emails. Il faut imaginer qu'en fait, toi, t'es tout seul avec ton cerveau de primate. Ça fait en gros 100 000 ans qu'il n'a pas évolué. Enfin, le temps de l'évolution est beaucoup plus long. Et en face de toi, t'as Google qui a probablement des centaines de psychologues qui savent quand ton cerveau marche. Et leur seul boulot, c'est de voir si le rouge est un peu plus foncé pour te donner bien envie de cliquer. Donc, t'as aucune chance. T'as aucune chance. Et la plupart des humains n'arrivent pas à résister à ce truc-là. Et on essaie vraiment d'insister sur le non d'interruption. Tu vois, tu prévois. Genre, en vrai, si tout est urgent, rien n'est urgent. Et ça, c'est quelque chose qui a l'air très con, très simple quand je dis comme ça. Et je pense que, je ne vais pas donner des statistiques complètement bullshit, mais je serais étonné qu'il y ait plus de 5 à 10% des gens qui soient capables vraiment de s'interdire, de se distraire. D'ailleurs, moi, j'en fais pas partie. Ça m'arrive de me faire avoir comme tout le monde, mais j'essaie vraiment de faire en sorte de, tu vois, quand je bosse, c'est un truc deep, tu vois, de poser le téléphone à côté. Enfin, voilà, de pas tomber dans le piège, quoi.
Quand tu coupes, au moment où tu rallumes tes écrans, 10 000 notifications.
Ouais.
Mais le fait de toutes les avoir sous les yeux en même temps permet de mieux les prioriser.
Bah, c'est pas vraiment ça, c'est qu'en fait, la réalité, c'est que la plupart de tes notifications, c'est juste un petit status update, c'est des trucs pas vraiment importants. Si c'est vraiment important, ça pop. Peut-être un exemple, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais qui est assez intéressant. Je lis jamais les news. Donc, je vais pas sur Le Monde, Figaro, whatever. Je lis même pas trop les news tech. J'ai 2-3 newsletters, mais vraiment, honnêtement, je suis très, très peu news. Je pars du principe que si un truc est important, genre vraiment important, je l'apprendrai.
Il viendrait frapper à ta porte.
Parce que t'as forcément un pote qui dit putain, t'as vu ce truc-là, tu vois, t'as vu le hack de Uber ce matin. Je l'ai pas lu. Mais
donc les notifs, c'est pour les potes.
Et voilà, évidemment, jeu du passager clandestin, si tout le monde le fait, ça marche plus. Mais en tout cas, pour moi, ça marche. Et si tu veux, les sujets vraiment importants, ils se traitent pas avec des notifs. Anyway.
Moi, je suis assez sensible à ces questions-là parce qu'on parle toujours de questions autour de la productivité dans les startups, notamment. Parce qu'on peut avoir envie de créer une ambiance cool. Et donc, du coup, il y a plein de facteurs perturbants dans les ambiances cool. Donc, parfois, le télétravail, on en a parlé un peu off. C'est une réponse à trouver plus de concentration chez soi. Mais ça peut être aussi épuisant.
Après, t'as les notifications les interruptions, entre 2 et 12 ans.
Ouais. Et je me rappelle une discussion hyper intéressante avec Jean-Daniel Guyot, qui était le fondateur de Captain Train à l'époque, et que j'avais invité quand je présidais Rakuten pour parler un peu session inspirante sur les moyens de communication. Il nous disait qu'effectivement, bah, pour un codeur en particulier, c'est très compliqué parce que quand tu écris des lignes de code, que tu sois dans la zone ou pas, enfin, de toute façon, t'as un moment de concentration. Et si t'es interrompu par une notification ou par quelqu'un qui te parle ou quoi que ce soit, eh ben, tu peux pas reprendre la dernière ligne, t'es obligé de revenir en arrière. Donc, en fait, le schéma, tu montes comme ça et ça redescend, ça fait une courbe qui va faire que tu perds en productivité.
Horrible. Les développeurs détestent ça.
Ouais.
Tu vois, c'est vraiment le côté, t'as créé ton contexte et t'as un mec qui arrive et qui détruit ton contexte, il pense qu'il t'a pris une minute et en fait, il te prend un quart d'heure.
Ouais, voilà. Et du coup, ça pose la question aussi des open space. Dans beaucoup de cas, je vois des CTO qui réfléchissent à ça. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir isoler les gens alors que tout le monde a valorisé à un moment donné l'open space, mais du coup, tu as des zones là, au sens géographique où la géographie doit être stratégique pour que l'information circule, parce que parfois c'est complètement absurde, il y a des gens qui ne se parlent pas dans un open space alors qu'ils pourraient échanger l'information, c'est dommage, mais s'ils se parlent trop ou pas au bon moment, ça ne marche pas non plus.
On rentre dans le dur du business.
Allons-y.
Donc, augmenter vos ventes, votre satisfaction client, ça c'est la promesse. Une installation simple, rapide, ça c'est le comment. Ça marche en ligne, en boutique. Olivier le disait tout à l'heure. Bah, la première chose que j'aimerais comprendre sur ce secteur, c'est quel frein il faut lever, quelle problématique il faut résoudre pour monter un projet comme celui-là.
Oula, ah oui, d'accord, on attaque directement sur les questions, les questions un peu larges, les questions de fond.
Bah, je pense que tout le monde a entendu parler du paiement fractionné.
Ouais, là maintenant, on peut plus trop y échapper. Non, il y a beaucoup. En fait, si tu veux, t'as un peu deux types, je pense, de problèmes. T'as les problèmes un peu classiques de start-up. Alors là, t'en as plein. Comment tu fais pour faire un produit qui tient la route et qui est de bonne qualité? Tu trouves ton product market fit, tu développes ta stratégie commerciale, tu crées l'équipe, tu as la structure. Bon, ça, à la rigueur, j'ai envie de dire, il y a Alma, mais n'importe
quel. Tous à la même enseigne. Voilà,
ouais. Tous à la même enseigne. Donc, parlons plutôt des choses qui sont spécifiques à Alma. Alma, donc c'est alors je vais parler de BNPL d'abord, après on pourra prendre un step back et regarder la vision de la boîte qui est beaucoup plus large que juste le crédit, mais on a commencé avec un produit de crédit, on peut l'appeler comme on veut, c'est du crédit. Donc comment tu te démerdes quand t'es tout seul devant une feuille blanche et que tu dis je vais créer une banque, c'est ça le sujet. Et les je dirais que les deux gros types de sujets, t'as des sujets purement juridiques. Pour le dire autrement, comment est-ce que je fais pour ne pas aller en prison? T'as un truc qui s'appelle le monopole bancaire. Si tu violes ce truc-là,
les marchés financiers au global sont ultra réglementés.
Voilà.
Et en général, c'est notamment pour protéger les consommateurs, etc. Aussi,
pour protéger les consommateurs, pour protéger le système lui-même aussi.
Les droits privés, oui.
Et donc ça se craque avec un partenariat?
Alors c'était je vais revenir, juste te fais un peu le tour d'horizon.
Ouais,
t'as le côté vraiment le juridique, et après t'as le technique qui est bon, bah, tu fais du crédit pour prêter de l'argent, il faut avoir de l'argent. Bon. Comment tu fais pour avoir de l'argent? Et puis, pour prêter de l'argent et se faire rembourser, il faut savoir scorer. Et ça, quand tu connais rien du tout, je veux dire, tu peux y passer vraiment extrêmement longtemps. Et alors, la manière dont on l'a vu, si tu veux, c'était de se dire, moi, ma terreur en tant qu'entrepreneur, c'est de monter une boîte qui sert à rien. Et donc, ce qui me faisait chier, c'est de me dire, il va falloir que je bosse pendant des années pour monter une usine. Qui, si ça se trouve, 3 ans plus tard, on se rend compte que ça sert à rien. Et donc, on avait cette obsession au début de se dire, il faut vraiment limiter au maximum le temps où on va pouvoir onboarder notre premier marchand et avoir du feedback du marché.
Pour
Parce que
si
ça se trouve, notre projet, il est nul. Ça se trouve, ce projet, il sert à rien. Auquel cas, il faut le killer. Et donc, on a essayé de prendre des shortcuts assez massifs. Et alors, on a pris 3 shortcuts vraiment assez marrants. Sur la partie pour prêter de l'argent, il faut de l'argent. On s'est dit, au lieu de lever de la dette ou des solutions structurées, honnêtement, on n'y connaissait rien. Et puis, quand tu as 0 track record, c'est impossible. On a levé de l'equity avec Isaïe et d'autres. Et on s'est dit, bah, écoute, les premiers crédits, on les fera sur equity. Alors, évidemment, il y avait quelques VC qui nous regardaient. Genre, attendez, vous me dites que vous voulez transformer de l'argent VC en crédit conso. Tu vois, les mecs, non, c'est pas le modèle à terme. Mais en fait, là, aujourd'hui,
ça permet de valider, quoi.
Ça peut être validé. Sur le scoring,
tu leur as dit après la levée.
On leur a dit avant. Alors on a tu sais, transparence, hein, j'ai déjà parlé, mais la première slide de notre deck de levée de fonds sur le pré-seed, c'était risque clé. Donc pour y revenir, tu veux, mais grosso, on a commencé par pourquoi faut pas investir chez Alma, et si ça te fait pas chier, bah dans ce cas-là, tu peux y aller. On préférait, tu vois, évacuer tout de suite. Si t'as peur de ça, ça ou ça, bah franchement, vaut mieux pas qu'on se parle. Donc c'est un peu les gros challenges. Le deuxième, c'était le scoring. Et alors là, pareil, hyper bourrin. On s'est dit, t'as deux méthodes. Soit tu fais des backtests dans tous les sens, t'achètes des jeux de données, tu commences à essayer de comprendre le truc, t'embauches un data scientist tout de suite. Ou alors tu te dis qu'en fait, c'est pas le sujet, parce que ton sujet, c'est de voir que t'as un marché et que tu pourras toujours gérer le, entre guillemets, back office derrière. Et donc, notre premier algorithme de scoring était assez simple. If prepaid card, then false. Donc, en gros, t'as une carte prépayée, c'est non, t'as pas de carte prépayée, ça va. C'est assez basique. On s'est fait arracher, mais par la fraude, comme c'est pas possible au début. Mais au moins, on a appris. Et on s'est dit, OK, ton taux de défaut, il est colossal, mais ton volume est tout petit. Donc, l'argent que tu perds est faible. Et en fait, tu sais, c'est un peu comme la boîte de nuit, quoi. Soit t'essaies de comprendre quel est le profil de gens qu'il faut pas faire rentrer, soit tu te dis je vais rentrer tout le monde
et après
le premier soir il y a une rix, ah bah c'est les mecs et les baskets rouges, bah du coup le lendemain je fais pas rentrer les mecs et les baskets rouges, et peut-être que ce signal, les fameuses baskets rouges, tu l'aurais pas deviné tout seul, c'est en le voyant en action, tu vois. Et donc du coup notre scoring littéralement était codé la première version en une après-midi. Alors que t'as des boîtes qui passent des mois et des mois à essayer de faire un truc génial, nous on l'a pas fait. Et sur la partie juridique, pareil, la manière un peu scalable de le faire, c'est de prendre une licence auprès de la Banque de France. Ça, c'est un truc, je veux dire, c'est un projet. Hein. C'est un projet.
C'est quoi, 3 ans, 5 ans?
Non, pas 3 ans. On a mis 1 an et demi, mais c'est, si tu veux, déjà ils ont des demandes en termes de capacité de financement d'entreprise, donc que t'as pas parce que t'as pas de business, et puis que tu connais pas, et t'as pas vu le truc se comporter, de crédibilité. Mais c'est effectivement. Enfin, on a rédigé des centaines de pages sur ce dossier d'agrément. Si tu fais ça et qu'in fine, ça ne te sert à rien, honnêtement, tu n'es quand même pas hyper content.
Et donc, dans un dossier d'agrément, tu as des, ouais. t'as des spécificités techniques auxquelles il faut répondre, j'imagine, c'est-à-dire sur la robustesse technique, ouais. La sécurité du système, etc. Parce qu'on dit souvent que les systèmes bancaires coûtent assez cher. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont eu du mal à évoluer, qu'ils sont fait disrupter par les néobanques. C'est parce qu'ils étaient sans doute peu agiles. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi des ratios plus prudentiels qui font partie aussi du dossier, c'est-à-dire des ratios de fonds propres, etc., pour pouvoir couvrir les risques.
Et tu vois, ratio de fonds propres, c'est bien des mots qu'on ne comprenait pas du tout quand on lançait la boîte.
Ouais.
C'est pas, on savait qu'il y avait un truc, à un moment, il fallait s'y intéresser, l'equity par rapport à la dette. Mais honnêtement, le niveau de technicité qu'on avait là-dessus était égal à zéro. Et effectivement, dans ton dossier d'agrément, c'est super question, parce que on verra si on en parle tout à l'heure ou pas. Il y a un petit moment carte blanche, je crois, là, ouais. qui arrive après. Je voulais parler des champs de régulation et de coûts cachés. Et donc, quels sont les coûts cachés de la surréglementation? Parce que réguler, c'est important. Hein, 2008, c'est pas top, mais il y a des coûts cachés derrière. Donc, peut-être je te la garde pour.
Ça sera l'objet de la carte blanche. Ouais. Ouais. Okay,
il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont face à ça, et c'est d'ailleurs le sujet des fonds d'investissement. C'est aussi parfois avec France Digital, c'est ce qu'on fait, faire du lobbying pour essayer de repousser les frontières d'innovation possibles qui sont souvent freinées par réglementation. Et je me posais juste une question qui complétait, parce que là, du coup, on est rentré hyper vite dans la technique et tout, et on voit, tu as ce côté ingénieur, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as voulu faire du coup de la finance? Quel est le ressort, même d'un point de vue entrepreneurial, le pitch ou le problème que tu avais envie de résoudre?
Ouais, c'est vrai. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde, tu vois, se réveiller un matin pour dire il faut que les Français payent en 3 fois. Tu vois, je pense que, pour le dire un peu voilà, cash.
C'est pour ça que je posais la question.
J'ai pas eu cette espèce d'épiphanie, tu vois, genre le monde doit payer en 3 fois. Non, le sujet un peu plus prosaïque. J'avais déjà créé 2 boîtes avant, mais qui n'avaient pas marché. Et je savais que j'avais envie de le refaire. Tu vois, j'étais en mode quand même, c'est intéressant, parce que j'aime bien, mon espèce de moteur personnel, c'est les problèmes de merde. C'est vraiment les trucs vraiment durs, si tu veux. Et on fait pas beaucoup plus dur que de créer une boîte. Donc je savais que je voulais y retourner. C'est un peu, tu vois, une sorte de learning process, quoi, de se dire, c'est le truc que je sais pas faire, j'ai jamais dirigé de boîte de 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, 400 personnes. Et donc, j'avais vraiment envie d'y aller. Et j'avais juste pas de sujet, et j'avais pas envie de me lancer avec un projet qui tenait pas la route. Et à l'époque, je bossais chez Stripe, et j'avais vraiment des dizaines de marchands chaque semaine qui nous demandaient, mais Stripe, est-ce que vous pouvez nous aider sur le paiement fractionné? Et j'y connaissais rien, mais quand t'as quand même, tu vois, de manière systématique.
Il y avait une demande, quoi.
Une énorme demande de mecs qui disent, mais paiement fractionné, tu commences à t'intéresser au sujet, tu regardes le marché, déjà tu comprends le produit, pourquoi est-ce que c'est utile, c'est quoi ce produit, qui l'utilise, dans quelles conditions, etc. Tu comprends effectivement que c'est un sujet extrêmement utile, on va y revenir, mais le crédit a parfois mauvaise presse pour de très mauvaises raisons, donc je vais peut-être expliquer ça.
On y reviendra, oui.
On y reviendra aussi, mais le quand tu vois ce besoin du marchand, tu te dis, ok, est-ce que le marché est capable d'y répondre? Et on s'est rendu compte qu'en fait, les marchands étaient très frustrés par les offres des acteurs historiques, et qu'il y avait l'opportunité de créer un super acteur. Et c'est ça, en fait, le début d'Alma, c'est de se dire, écoute, moi, je pense que aider les marchands, enfin, je vois le pain de ces mecs-là, le commerce, l'échange de biens et services et l'échange entre humains, c'est quelque chose qui, moi, me fait vibrer.
Donc, le problème identifié, il était du point de vue des marchands.
Bien
c'est
sûr.
Pas pour résoudre un problème du point de vue des
non,
consommateurs.
Non, on a commencé par les marchands. D'accord. On pense beaucoup aux consommateurs, mais on a commencé par les marchands.
Parce que, du coup, il y avait quand même des établissements de crédit. Je dis ça en tant qu'ancien du e-commerce où il n'y avait pas Alma disponible encore sur le marché, plutôt avant les années 2010, etc. Il n'y avait quand même pas d'établissement de crédit qui proposait des solutions, ou d'ailleurs des e-commerçants qui développaient leurs propres solutions de paiement fractionné.
On l'a pas inventé, hein. Enfin, on est arrivé 15 ans après la bataille. Mais comme toujours, tu sais, je trouve ce qui est intéressant, c'est cette sorte d'innovation quand tu bosses dans les startups. Ça fait quand même pas mal d'années que tu fais ça. Donc tu le vois, mais on a toujours l'impression, tu sais, il y a plein d'entrepreneurs qui ont l'impression qu'ils inventent un truc qui a jamais existé. Et en fait, quand tu prends une perspective historique, t'as plein de sujets. Je veux dire, le premier plan d'installment qui a jamais été créé, c'est dans les années 30 pour vendre des machines à coups de Singer. Le truc, il a il a 90 ans, quoi. Et après, tu l'oublies un peu, ça s'arrête, c'est remplacé par un autre produit, après ça revient. Tout ça, c'est
cyclique. C'est quoi le développement du e-commerce qui fait qu'il y avait de nouveaux besoins aussi, ou
c'est parce qu'il y a eu un gap qui s'est créé entre, effectivement, ces banques historiques qui font du crédit depuis, je veux dire, depuis avant que je suis, enfin, je suis né après le début du crédit conso en France, hein, dans des boîtes, des CTLM, des Cofidis, ça fait très, très, très longtemps qu'ils font ça. Et ils connaissent leur métier extrêmement bien. Et donc, tu te dis, bah, comment tu peux arriver sur ce marché face à des mecs qui ont une balance sheet que t'as pas, une gestion de risque que t'as pas, de la data que t'as pas et 40 ans d'historique, donc bon courage. Mais il y a un truc qui est arrivé, c'est qu'il y a des nouvelles technos qui se sont créées, qui permettaient de créer des expériences utilisateurs beaucoup plus simples que ce qu'on faisait avant, et comme tu disais tout à l'heure, les banques, elles sont aussi beaucoup tenues par leur legacy, c'est des paquebots, donc c'est dur pour elles de bouger vite, et ce qui fait que il y a une tension qui s'est créée entre ce que tu pouvais donner et apporter comme solution au marché avec ces nouvelles technos, en termes d'instantanéité de l'octroi du crédit, en termes de rapidité, en termes d'expérience, en termes d'acceptation, et ce que les acteurs en place proposaient. Et c'est ça, en fait, qui était relevé par les marchands, qui disaient, mais est-ce qu'on peut pas faire mieux? Parce que moi, je vois des boîtes comme Stripe et comme Shopify. Il est où le Stripe du crédit, quoi, quelque part? C'était ça, la question qu'ils posaient.
Très clair.
Sur le marché, tout à l'heure, Olivier évoquait les concurrents. Qui étaient les premiers?
Les tout premiers sur le marché, alors je sais pas. Bah les premiers, c'est la banque là qui a fait le truc pour Singer. Je crois que même, je sais pas si c'est Singer qui l'a fait eux-mêmes.
Je pense pas à l'époque, mais voilà, je parle de tout. De façon digitale, globalement sur le paysage concurrentiel actuel.
Ouais, moi j'aime bien prendre des grosses tangentes. Faut s'habituer.
On est prêt.
Faut s'accrocher. Non, je rigole, mais
on est prévenu.
Sur le marché français, le premier, si je dis pas de bêtises, qui a vraiment fait l'installment dans un peu sa forme actuelle, c'est Honey. Alors Honey, à l'époque, c'était la banque Accor, qui est la banque de Auchan. Et je crois, je cite ça, il faut leur demander, ils ont les chiffres, mais je crois que ça fait 20 ans qu'ils font ça. Une solution qui s'appelait à l'époque FacilityPay, qui a été rebrandée en Honey. Et c'est les premiers qui étaient un peu modernes par rapport aux solutions pure crédit conso avant. Et un peu en même temps, t'as Klarna, évidemment, dont on va, j'imagine, parler un peu. Klarna, qui est pas français, qui est suédois, mais qui est, pour beaucoup, par contre, très gros et qui est worldwide, qui un peu en même temps a commencé, non pas dans le paiement fractionné, paiement différé, mais qui est allé sur le paiement fractionné relativement rapidement, au bout de 5 ou 6 ans.
Bon, on peut en parler maintenant, hein. On y est.
Eh bien, parlons-en.
Non, mais en fait, la question, c'est aussi quand tu... Alors, je ne sais pas combien d'argent ils ont levé et quelle taille ils font. Oui. mais leur, on est capable d'avoir une idée un peu de leur volume, enfin, du volume d'affaires qui passe par leur solution de paiement fractionné.
Ouais, alors l'avantage, c'est qu'ils publient leur compte. Du coup, on a une super idée des volumes d'affaires. C'est de l'ordre de... Je ne sais plus c'est quoi, 45 milliards de SEK, donc ça fait quelque chose comme une dizaine de milliards d'euros de volume d'affaires par an. Si je dis pas de bêtises, c'est l'ordre de grandeur. Hein.
Donc c'est de l'ordre de 10 fois plus gros que Alma, ou c'est...
Ouais, nous on a dépassé le milliard, donc c'est un truc comme ça.
D'accord, enfin l'ordre de grandeur. Voilà.
Et quand il y a quelqu'un... Vous avez votre Snoop Dogg à vous?
Alors c'est... Non mais c'est vachement intéressant parce que Klarna est connu pour Snoop Dogg, ouais. Il est connu pour, tu sais, leur logo rose, le machin un petit peu, tu sais, les ils font à la Paris Retail Week, ils ont une sorte d'énorme mur avec en fourrure, tu vois, enfin ouais. C'est assez weird, donc t'as l'impression de la boîte méga fun. À la base, Klarna, c'est pas une boîte fun. À la base, c'était une boîte avec un logo bleu un peu chiant, une boîte qui est, en fait, et les gens savent pas trop, mais qui est plutôt une boîte qui est pas trop mal géré, qui est une boîte sérieuse, etc. Et en fait, simplement, ils ont compris qu'il fallait rendre, enfin, en tout cas, eux, leur
parti pris était vraiment rendu, fun, ouais, le rebranding est sexy.
Mais Snoop Dogg,
ouais.
C'est relativement récent, c'est 2018, et c'est le début du Klarna complètement taré que tu connais aujourd'hui. Je pense que ça, c'est pas vraiment Alma. Moi, je pense que, on est peut-être un peu plus chiant parfois, mais parce qu'on est aussi plus sérieux, peut-être. Et je pense que c'est une question de personnalité, d'adéquation aussi à ton marché. Aux US, je pense que le marketing de Klarna, il marche très bien. Peut-être que nous, on marcherait moins bien. En France, tu vois, ce qu'on voit du comportement des consommateurs, c'est qu'ils ont déjà, tu vois, ce qu'on te demande quand tu fais paiement fractionné, c'est déjà que tu marches, que ça marche bien, est-ce que t'es sérieux, je veux dire, je te fais confiance avec mon argent, en tant que client, en tant que marchand, et c'est ça les gros sujets, et voilà, donc nous on est plutôt sur, écoute, oui, c'est très beau, c'est bien foutu, c'est aspirationnel, mais avant tout ça, déjà, juste ça marche.
Ouais, c'est la base. Et alors, du coup, comment on se positionne, pardon, vis-à-vis de ses concurrents, comment on fait sa place dans la tête de ses consommateurs, ouais. Ça reste un sujet évident que vous avez, ouais.
Non, bien sûr. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu vois, c'est une question que nous posaient certains VC il y a 4 ans. C'est-à-dire, du coup, qu'est-ce que vous faites par rapport à Klarna? Alors, la réponse, c'était, guys.
Tu me dis que j'ai des questions de vieux ou...
Ouais. Non, mais c'est sûr. Non, t'es comme ça, guys. On est deux dans un garage. On a zéro marchand, Klarna ils sont 3000, on se positionne pas par rapport à Klarna, ouais. D'accord, ça n'a pas de sens. On peut vous expliquer pourquoi est-ce qu'on pense qu'on a de quoi créer une super boîte, mais à l'époque, on n'avait pas du tout de réponse en mode on va conquérir le monde. D'ailleurs, ça serait hyper prétentieux de te dire non mais les gars, genre juste on va rester sur Terre, tu vois. À l'époque, c'était on pense qu'il y a un marché. Et au tout début, le positionnement d'Alma, c'était les paiements plusieurs fois pour les PME. Et je fais une petite tangente. Comme d'hab, hein. Parce que je pense qu'on parle beaucoup de pivot, c'est quand on parle de start-up, t'as, t'as un peu la culture du pivot, The Lean Startup, tout le monde a lu Eric Ries, donc on est tous comme des malades, genre non mais d'accord, si votre marche pas, je vais pivoter, je vais finir par trouver. Ouais, parfois ça marche, souvent c'est quand même du gros bullshit. La réalité, c'est que tu peux faire ce que tu veux si t'as le bon positionnement au début. En fait, ta boîte, tu peux vraiment merder beaucoup sur les opérations et ta boîte marchera. Si t'es pas bien positionné, tu peux être un génie et ta boîte marchera pas. Nous, on l'a vu depuis le début sur Alma, tu vois, on s'est positionné en mode, ok, en fait, Honey, ils ont les grands groupes et pour l'instant, ce serait hyper prétentieux de notre part de dire qu'on va être meilleur qu'eux. Klarna, ils sont pas encore en France, mais ils vont venir, ils font du grand groupe, donc pareil. Par contre, les PME, c'est ces boîtes-là qui venaient me voir quand j'étais chez Stripe. C'est eux qui avaient le pain. On s'est dit, on se positionne sur de la PME, on fait, tu vois, de la PME, un peu de mid-market. On commence comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que si tu veux, comme on était sur un positionnement, on faisait quelque chose d'unique. Eh ben, notre produit au début était pas forcément très très bon. Enfin, au début, t'as un produit qui est, tu vois, c'est un MVP, quoi. Tu viens de le lancer. Mais comme on était unique, t'avais l'impression que tout l'écosystème voulait nous aider. Et même Honey nous envoyait des leads à l'époque. On avait des commerciaux Honey qui disaient, bah, écoutez.
On peut pas traiter, ils sont trop petits pour nous.
Vous êtes trop petits pour nous, allez voir Alma, une petite, petite start-up hyper sympa. Tu sais, les petits gars super, tu sais, avec le pouce comme ça, là. et nous, honnêtement, au début, c'était pas du tout une sorte de plan machiavélique de dire, on commence comme ça, puis après, on ira. C'était vraiment, honnêtement, c'est Saint Thomas. On croit que ce qu'on voit, et aujourd'hui ce qu'on voit, c'est que le PME, on s'est traité, donc on y va. Et c'est que après qu'on a compris qu'on avait quelque chose de bien plus gros entre les mains, qu'en fait on avait la capacité d'amener au marché une solution et de la valeur que les autres n'étaient pas en mesure d'apporter. Et c'est que après qu'on a commencé non seulement à grandir bien sûr, mais aussi à étoffer la solution et à créer ce qui est aujourd'hui, à mon sens, qui est extrêmement biaisé, la meilleure solution du marché. Mais tu vois, ça s'est fait dans un deuxième temps. Et donc du coup, ton positionnement par rapport aux autres, il change. Et après, peu à peu, tu vas monter dans ta pyramide de Maslow. Au début, ta pyramide de Maslow te dit, bah, faut survivre. Donc, en fait, c'est genre paiement pour PME pour faire une boîte qui va vivre. Hein, parce que déjà, tu peux penser à aller très très loin, mais on va commencer par ça. Et peu à peu, on a compris qui on était, ce qui était important pour nous. On va parler peut-être de surendettement, de surconsommation. Et peu à peu, on a compris comment nous, on voulait se positionner par rapport à ces sujets. On a commencé à prendre la parole sur ces sujets de manière extrêmement sincère et évidemment aussi pragmatique. Parce que ce qu'on pense est a priori, encore une fois, je suis très biaisé, mais est vrai. Mais pratiquement, on voit aussi que c'est ce que ça résonne beaucoup avec nos marchands et nos clients, tu vois, le refus du surendettement, le refus des pénalités de retard, tu vois, l'attention qu'on porte à la surconsommation, ces choses-là sont très importantes pour nous, et ça c'est quelque chose, je pense qu'on est le premier acteur mondial à l'avoir pris en main, on est le premier acteur au monde, et d'ailleurs le seul qui n'a jamais prélevé de frais de retard. Et ça, si tu veux, c'est unique. Aujourd'hui, le marché est en train de converger vers cette position, mais nous, on est les seuls chez qui c'est sincère.
Et donc, au moment où les médias sont rentrés un peu dans le BNPL, vous aviez déjà des réponses. Et je te propose justement une question à Dan Taffin, qui est journaliste et notre partenaire Madines, et on restera sur le sujet comme ça.
Vous avez un message.
Bonjour. Le gouvernement britannique a annoncé l'été dernier vouloir réglementer le financement acheter maintenant, payer plus tard. Pensez-vous qu'une telle régulation est nécessaire ?
That's a big question. Non, c'est une super question parce que alors, je ne vais pas trop déflorer le sujet régulation, mais forcément, on va y toucher de temps en temps. Le sujet est un peu toujours le même, c'est-à-dire qu'au début, tu n'as pas vraiment de réglementation, donc t'as un peu, ça part dans tous les sens, tu as plein d'acteurs qui se créent, chaque acteur
c'est le Far West.
Voilà, c'est un peu le Far West, et puis at some point, quand tu commences à réussir, bah, tu as envie de commencer à créer des règles du jeu. Je pense que le vrai sujet, si tu veux, dans la réglementation, c'est... Bah, c'est quoi tes objectifs, quoi? Qu'est-ce que tu veux créer? Et quand on prend l'exemple de la FCA, enfin du gouvernement britannique et de la FCA en particulier au Royaume-Uni, le sujet, c'est que le Royaume-Uni a un secteur du crédit qui est plutôt très dérégulé par rapport à la France. Tu as des acteurs qui font du crédit à 1000%, quoi. Tu vois, t'as des choses, je veux dire, c'est pas... Il y a beaucoup de choses qu'on voit pas en France. Et il se trouve qu'ils ont eu un problème avec le BNPL, avec certains acteurs du BNPL qui étaient très très élevés sur les frais de retard. Et en fait, t'as l'impression que tu prends un crédit sur 300 pounds et tu vas rembourser 50 pounds, tu vois. Donc, quand tu rembourses 50 pounds sur un crédit de 300 sur 3 mois, il y a un problème. Quoi. C'est évidemment que le business model ne fonctionne pas et c'est de là que ça vient. Faut savoir qu'en France, on est quand même déjà beaucoup plus protecteur, donc ce genre de situation, on ne les voit pas beaucoup parce que tout est... Enfin, tout. Le secteur est globalement plutôt très encadré. Donc nous, on pense effectivement qu'il y a un peu de régulation à créer, il faut faire attention. Mais nous, ce qu'on pense chez Alma, c'est un, il faut appeler un chat un chat. Donc le BNPL, c'est une forme de crédit. Alors il y a plein de gens qui disent non, mais c'est pas du BNPL, c'est paiement fractionné, c'est pas du crédit. Parce que tu veux pas rentrer dans la règle du crédit. Mais
oui, t'avances de l'argent, c'est... Oui.
Tu fais voyager de l'argent dans le temps. Je veux dire, la définition du crédit, c'est que tu prends de l'argent un instant T et puis il revient un instant T plus X. C'est juste, c'est la définition du truc. Toi. Donc oui, c'est un crédit, c'est évident. La question par contre, c'est quelles sont les spécificités de ce crédit qui font que tu ne dois pas le traiter comme un crédit conso pour acheter une voiture ou comme un mortgage pour acheter une maison. C'est pas la même chose. Et nous, on pense que le vrai débat, si tu veux, il se dit, ok, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi nos objectifs et comment on les atteint de la meilleure manière. Et je pense que les deux grands objectifs que tu veux atteindre avec une réglementation équilibrée du crédit, c'est un, l'inclusion bancaire, l'accès au crédit, parce que le crédit c'est utile et qu'il y a des gens qui n'y ont pas accès alors qu'ils devraient, et deuxièmement la lutte contre le surendettement. Comment est-ce que tu fais pour t'assurer que le prêteur il est responsable? Alors je vais commencer par la lutte contre le surendettement. En fait le sujet éternel, c'est qu'on a toujours une obsession globale dans l'écosystème du scoring, de la technique. Donc on va parler d'un algorithme de machine learning, on va dire des gros mots, neural network, random forest, etc.
En fait, soit t'as une carte prépaid, soit t'en as pas.
Voilà, non, c'est pire que ça. Après on va parler de la data, donc là on va parler de l'accès à data, mais avant tout ça, il y a un truc qui est hyper important, c'est tes incitations. Si jamais en tant qu'entreprise prêteuse, t'as pas intérêt à prêter à des gens solvables, bah tu vas pas prêter à des gens solvables. c'est con, hein, mais c'est basique. Et donc, pourquoi est-ce que tu pourrais ne pas avoir intérêt à prêter à des gens solvables? C'est parce que les frais de retard qui ont été créés il y a très longtemps pour inciter les Français, enfin les Français, c'est dans tous les pays, donc dans les consommateurs, si tu veux, à ne pas prendre de crédit, à réfléchir avant de prendre un crédit, ces frais de retard, ils sont globalement contre-productifs. C'est un peu comme tu sais la mention sur le paquet de clopes là, qui te dit, attention, si tu fumes, dans 30 ans, tu auras un cancer. Ouais, mais c'est dans 30 ans, en fait. Et en fait, ces mentions, elles marchent pas très très bien. Bah là, c'est pareil. Les frais de retard, le problème c'est que tu t'en rends compte le jour où t'as un retard et donc en fait ils te mettent encore plus t'es la tête sous l'eau quoi. Et le problème c'est que frais de retard peut être très élevé, ça peut jusqu'à 8% du capital que reste en dû, ce qui fait que dans certains cas les frais de retard ils sont plus rentables que le crédit lui-même.
D'où l'intérêt de moins prêter à ceux qui sont solvables.
Donc c'est un biais du système qui va tendre à dire on veut que les gens soient en défaut de paiement pour gagner plus d'argent.
En fait, c'est que c'est compris dans le business model de...
Voilà, exactement, c'est l'énorme problème, c'est que du coup tu prends ton algo, tu dis maximise la marge et l'algo, bah, il dit, bah, c'est pas compliqué. Cette frange de la population là, qui est un peu shaky, bah, ça, si jamais il y en a qui se rend défaut, c'est top parce qu'on va lui charger 8%. Et puis à la fin, il finit par payer.
Et donc effectivement, dans l'algorithme, la dimension, le couple risque-rendement, l'algorithme prend en compte les risques. Le risque ultime, c'est que la personne se suicide ou la personne ne peut pas payer. Enfin, ne rembourse pas du tout. Soit après, effectivement, je sais pas, en état de surendettement, comme on sait qu'il y a des personnes à qui ça arrive. Et ça, c'est pris en compte aussi dans l'algorithme.
Ouais, exactement. C'est-à-dire que effectivement, dans cette espèce de modèle avec les frais de retard, tu sais, ce que tu veux pas, c'est évidemment le client qui ne rembourse jamais. Tu veux celui qui va avoir un problème et qui va finir par rembourser. Et c'est terrible parce que tu disais tout à l'heure, je pense que c'est très vrai, c'est-à-dire que t'as un problème concurrentiel, c'est que quand t'es un acteur sain et tu dis moi je refuse les règles du système, bah, le problème que t'as, c'est qu'il faut quand même que tu fasses de la marge et donc du coup tu vas pricer plus haut. Et donc les clients ils vont aller chez tes concurrents et donc du coup en fait les acteurs sains sont sortis peu à peu du marché à cause de cette loi. Alors nous on a l'avantage côté BNPL, côté Alma, d'avoir un gros différentiel de qualité côté produit qui nous permet de pricer plus haut que les autres. Et mais tu vois, parfois on n'est pas compétitif parce qu'on refuse de prendre des frais de retard là où les autres le font.
Mais du coup, pour les commerçants, vis-à-vis de leurs clients finaux, communiquent sur le fait que tu n'aies pas de frais de retard ou...
Alors, ça dépend. Je dirais qu'ils ne communiquent pas forcément beaucoup, mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a de plus en plus de commerçants tu sais, qui ont une approche sociétale, qui disent voilà, moi, c'est aussi important, c'est quoi les valeurs que vous communiquez. Et je pense que ça,
là, c'est plus que des sensibles. Valeurs, c'est une ligne dans un contrat.
Oui, mais en fait, je pense
oui,
que
mais ils sont sensibles. Bien sûr, tu veux bosser avec ce genre de personnes, tu vois.
Ouais. Mais c'est quand même compliqué de communiquer sur le fait qu'il n'y a pas de frais de retard, parce que ça pourrait être incitatif à payer en retard, ce qui n'est pas non plus l'objectif.
Non, justement, alors attention, hein, je veux juste mettre un petit caveat qui est que je ne parle que des personnes sincères, hein, les fraudeurs, et évidemment, tu imagines qu'un nombre de fraudeurs incalculables qui essaient de nous avoir, on n'a aucune pitié avec eux,
oui, bien sûr.
Pour des raisons évidentes, mais l'idée, si tu veux, c'est que Je pense sincèrement que les frais de retard sont une catastrophe et qu'il faut les abolir. Nous, en termes de régulation, on est pour l'abolition des frais de retard. Nous, on a déjà commencé chez Alma, donc maintenant, il faut plus que, que les autres s'y mettent. Mais en plus, c'est contre-productif. C'est-à-dire que, tu sais, le surendettement, la spirale du surendettement, elle vient beaucoup du problème de la honte qui est, j'arrive pas à rembourser mon crédit et donc je veux le cacher. Et donc, pour le cacher, je vais prendre un autre crédit pour rembourser le
premier. C'est la pyramide de Ponzi. Ouais. Et donc, mais du coup, qu'est-ce qui se passe si tu payes en retard, du coup, s'il n'y a pas d'intérêt de frais de retard, si dans votre relation au consommateur?
Il y a un truc vachement intéressant. J'ai pas eu juste une petite expérience qui s'est passée au Portugal il y a quelques années, où la banque du Portugal a dit aux prêteurs, vous allez être obligé de tenter un recouvrement amiable des personnes qui sont en retard avant de passer sur du un peu agressif judiciaire. Les mecs ont dit, attends, c'est catastrophique, du coup les mecs vont en profiter. Tu vois, si on montre qu'on est trop gentil, quelque part ils vont profiter. En fait, la réalité, tu as effectivement des gens qui profitent du système et qui abusent, on en a toujours, mais l'immense majorité des clients, quand ils remboursent pas, c'est qu'ils peuvent pas. Et quand tu arrives avec cette approche collaborative, en fait, ils veulent rembourser. Et ce qu'ils ont vu au Portugal, c'est qu'en fait, le taux de remboursement, taux de recouvrement, eh ben, il avait augmenté. Les gens remboursaient plus. Parce que tu enlèves ce truc de là, où tu dis, écoutez, ça peut arriver. D'accord? Oui, monsieur le client, vous avez merdé. Quelque part, vous avez pris le crédit qu'il fallait pas prendre. Mais ça peut arriver à tout le monde. Je sais pas, tu divorces, tu perds ton boulot. Enfin, il y a 50 trucs qui peuvent arriver qui font que, il faut trouver une solution. Oui, bien sûr, nous, on n'est pas des bisounours, on est là pour récupérer l'argent. Mais si tu commences par une phase amiable et tu cherches des solutions, en fait, tu as des bien meilleurs résultats parce que, en fait, les gens, tu sais, ils veulent se dire, j'ai fait la bonne chose.
Mais dans ces solutions amiables, alors qu'on est là, on parle d'une plateforme technologique avec des réflexes sur la scalabilité, la productivité. Et est-ce que cette phase amiable, elle est automatisée du coup, ou est-ce que tu passes aussi en partie par, est-ce qu'il faut appeler le client, ou est-ce que c'est humanisé?
Alors, t'as des humains quand même, t'as des opérations. Et à un moment, le client, il a besoin de parler à quelqu'un, surtout les clients qui sont vraiment dans une situation difficile, ils ont besoin de parler à quelqu'un qui comprend ce qui est en train de se passer. Donc, le tout début est automatisé. Tu peux décaler une échéance, en fait, sans appeler le support d'Alma. Tu as des gens qui répondent au téléphone, aux emails.
Et là, on parle de, c'est dans l'actu, hein, des sujets liés au pouvoir d'achat réel et puis des fois craint aussi, surtout pour la suite. Est-ce que ça a un impact sur à la fois les consommations avec cet outil là à date et de la même manière sur les remboursements?
Il y a plein de trucs à dire, parce qu'avec l'inflation, c'est pas de faire des petits jeux mathématiques un peu marrants de type si l'inflation est suffisamment élevée, ça vaut le coup de prendre un crédit, parce que du coup, tu peux acheter maintenant un produit dont le prix augmenterait plus tard. Donc genre, entre prendre un crédit, acheter maintenant et économiser l'argent sur ton compte et acheter plus tard, si t'as 5% d'inflation par an et que t'attends 6 mois, eh ben tu paieras 2,5% de plus. Donc là, c'est le jeu mathématique un peu 50% rigolo, 50% mauvaise foi. Maintenant, si je redeviens sérieux, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que Alma augmente pas le pouvoir d'achat, d'accord?
Ouais.
On crée pas de l'argent, d'accord? Si t'es payé X euros par mois, tu prends Alma, t'es pas payé X plus Y.
Non, ma question, c'était de dire, justement, par rapport à j'ai l'argent tout de suite sur le compte ou pas, ou j'ai peur d'en manquer demain, je vais plus avoir recours à des solutions comme vous. Donc ça, c'était le premier point. Et le second, est-ce que du coup, parce que, évidemment, l'inflation, etc., il y a moins de remboursements?
Ouais, c'est deux sujets un peu disjoints, je dirais. C'est-à-dire que la deuxième question, c'est la question du contexte macroéconomique. Ouais. Est-ce que les gens remboursent plus ou moins? Effectivement, on voit pas encore. Il y a des pays où on voit des effets déjà assez forts. En France, c'est pas trop le cas. Je parle beaucoup de la France. On n'est pas que en France. On est aussi en Italie, en Espagne, en Allemagne, Benelux. Mais disons que la France est dans le gros des volumes. C'est là où on regarde aussi quand même pas mal
les
précisions et les stats. Et pour l'instant, on voit pas cette espèce de vague que tout le monde prédit. Mais bien sûr, notre algo, on le réentraîne tous les jours sous les datas. Donc en fait, si jamais ça arrive, on va le voir venir et on va s'adapter.
Et donc sur la première question?
Et sur la première question, est-ce qu'on voit du coup des gens qui se mettent à utiliser plus Alma parce que inflation? Pas trop. En fait, les gens, on voit plutôt une petite diminution du commerce au global. Les gens font un peu plus attention en ce moment. T'as un peu ce contexte. Alors c'est pas l'hiver nucléaire, mais oui, les gens font un petit peu attention. Et en fait,
et donc moins d'achats, moins d'opportunités de passer par Alma, et ça se comprend.
Voilà, ce qui est assez logique.
Et t'as une observation aussi du coup dans ce contexte de crise et d'inflation sur un peu sectoriel, qu'est-ce qui se passe dans la consommation aujourd'hui des consommateurs, enfin en tout cas en Europe de l'Ouest? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des thématiques où les gens achètent moins de quelque chose, plus d'autres choses? Est-ce que tu as une observation, j'imagine, quand même, dans la famille du crédit consommation qui permet d'avoir un regard d'observatoire.
C'est un sujet, c'est un peu le serpent de mer chez Alma, c'est-à-dire que le fameux observatoire dont tu parles, c'est un truc qu'on a les datas pour le mettre en place. Aujourd'hui, on le fait pas. On pourrait le faire, mais on le fait pas. Donc nous, on regarde plutôt au niveau sectoriel. Voilà, on voit un petit rafraîchissement, mais on n'est pas du tout sur de l'hiver nucléaire où les gens juste, tu sais, disent je jette l'éponge, j'arrête de, tu vois, je faut que je fasse hyper gaffe. Et on n'y est pas encore. Faut faire attention. Je pense que on n'est pas sorti. J'aime pas le mot crise parce que quand tu vois d'une perspective historique, on n'est pas du tout en crise, mais on va dire que clairement la situation aujourd'hui, elle est moins bonne que la situation il y a 6 mois. Et je pense qu'on n'est pas, on n'est pas sorti de cette phase-là.
On reste dans l'actu, on parle d'Apple ?
Parlons d'Apple.
Mmh. Bah déjà, bravo. Pour la boîte qui prêtait qu'au PME.
Bon, c'est gentil. J'ai un peu la grande chance de ne pas avoir travaillé sur ce deal, dont je peux recevoir les compliments sans les mériter. Mais merci.
Mais qui a travaillé sur ce deal alors ?
Rendons hommage. L'équipe commerciale et après derrière. C'est un team effort. Hein, c'est-à-dire que. C'est vrai que c'est intéressant de se dire. Tu vois, comme c'est forcément le deal qui est hors norme, qui va demander un effort de support, de produit, de tech, que les autres ne te demandent pas. En fait, tu as une collaboration avec vraiment, j'espère que j'en oublie pas, mais tu as bien sûr les commerciaux qui ont bossé dessus. Tu as bien sûr les customer success, donc les personnes qui ensuite maintenant gèrent le deal. Tu as le risque, tu as le financement, tu as la finance. T'as la tech, t'as le produit.
Est-ce que tu peux résumer en quoi ça consiste? Parce que après, tout le monde ne connaît pas forcément. Mais quel est le deal du coup? Parce que tu as le droit d'en dire.
Ouais, alors ce qu'on a le droit d'en dire, attention, on est toujours normé là-dessus. Mais on aide Apple à vendre donc, ses produits type iPhone, montre.
C'est surtout ou c'est sur l'iPhone 14 spécifiquement?
Sur tous les produits. En fait, c'est Apple qui a la main. Donc c'est eux qui choisissent. Mais effectivement, ils peuvent utiliser Alma sur tous leurs produits. Et c'est des produits qui sont évidemment pas des produits que la plupart des Français peuvent acheter comme ça, tu sais, en mode tiens, c'est vrai que j'ai 2 000 € sur mon compte en banque que je peux mettre dans un MacBook Pro par exemple. Donc le crédit fait beaucoup de sens là-dessus. Et on va faire du crédit en 3 fois, 4 fois, 12 fois et 24 fois.
Et c'est sur quel pays ?
Alors, aujourd'hui, on fait que la France. France en ligne et en Apple Store.
Belle référence.
Je vois le temps qui passe. On avait encore pas mal de sujets qu'on voulait aborder avec toi, Louis, sur la partie business. Je crois, Olivier, que tu voulais évoquer les sujets de levée.
Oui, ben là on a beaucoup d'argent. Alors on s'est habitué depuis quelques mois à ce qui est, on va peut-être se déshabituer hein, avec la crise actuelle, mais à ce qui est beaucoup d'argent levé. En plus, on sait qu'en France,
la fin de l'abondance,
ou la traverse du désert. Mais bon, on a la chance en France d'avoir beaucoup de fintech qui ont cartonné. Tu en fais partie. Bon, on a déjà reçu Conto, il y a eu Lydia et ça. Enfin, on va pas toutes les citer aujourd'hui. Plusieurs sont dans le Next 40. On est très fort là-dedans et en plus ça attire aussi des investisseurs internationaux où il y a un savoir-faire probablement lié à aux compétences techniques que tu as toi et ton équipe, parce qu'on est sur des métiers assez quantitatifs, etc. Mais moi, je me suis posé la question, du coup, avec il y a quand même beaucoup d'actionnaires aujourd'hui, enfin, de gros actionnaires, des gens un peu sérieux. Est-ce qu'ils demandent tous à avoir une place au board? Dans ce cas-là, comment ça se passe dans une négociation quand tu lèves autant d'argent avec des gens qui ont l'influence? Est-ce qu'ils sont plutôt sleeping partners? Est-ce qu'ils ont envie d'intervenir? Et comment est-ce que tu gères ça et combien de temps ça te prend, toi, du coup, aussi?
Question hyper intéressante. La gouvernance de la boîte, comment ça se passe? Et un peu ce côté, y a un moment quand même quand t'as levé beaucoup d'argent et que t'as une boîte avec beaucoup de monde, avec un business qui a une certaine taille, maintenant il est temps de grandir, quoi. Donc tu passes à l'âge adulte et qu'est-ce que ça veut dire en termes de gestion de la boîte? Alors déjà, les fonds ont pas tous la même appétence à la gouvernance. T'as effectivement, comme tu dis, des sleeping partners, des fonds qui même te disent, moi j'ai pas forcément envie d'une place au board, c'est pas forcément comme ça qu'on travaille. La plupart des fonds quand même veulent une place au board. Tout dépend du ticket. Après, évidemment, quand t'as un tour, celui qui met le gros ticket, bien sûr, est en droit d'avoir une place au board. Ceux qui mettent des petits tickets, un peu moins. Nous, grosso modo, la manière dont on voit ça, peut-être, il y a une question que t'as pas posée, mais qui est la question qui fait toujours peur à plein de gens qui montent des boîtes. Et je te jure, j'en vois même souvent, même en CID et en série A, qui me disent, mais je suis pas sûr de faire un tour de VC parce que je veux garder le contrôle.
Je vais faire le contrôle, ouais.
Les VC pourraient me virer. Tu vois, c'est super flippant.
C'est arrivé, hein, j'en connais. C'est pas juste un fantasme, ça peut arriver parce que, et c'est parfois, les VC ont tort, parfois ils ont raison, mais en tout cas, la situation existe.
Oui, mais bien sûr, mais c'est pas une mauvaise chose. Enfin, je veux dire, en fait, il faut, en tout cas, suis hyper darwinien, c'est-à-dire que oui, effectivement, c'est sûr que quand tu lèves des centaines de millions d'euros, dans la plupart des cas, tu vas finir par perdre le fameux contrôle, les fameux 50% de droit de vote de ta boîte. Et oui, dans une boîte comme Alma, si jamais ils veulent me débarquer comme CEO, ils le font j'ai un claquement de doigts. Tu vois, c'est simple. Mais c'est une bonne chose, en fait. C'est-à-dire que...
Ta réflexion, c'est dire que tu as la partie entrepreneur et la partie, du coup, investisseur, parce que tu as aussi des billes dedans. Et que, du coup, si les investisseurs...
C'est que moi, en tant qu'actionnaire, j'aimerais bien que le CEO de la boîte, il soit bon. Alors, tant que je fais un bon boulot, je préfère rester CEO. C'est quand même un boulot qui me plaît beaucoup. C'est pas évident. Je pense qu'il y a aussi des transitions qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire. Et si tu mets ton ego de côté, tu peux aussi te dire, oui, c'est pas un boulot qui est fait pour tout le monde. C'est pas créer une boîte sur une petite équipe, tu as 10-15 et diriger un truc de 400. C'est vraiment pas le même taf. Donc,
c'est pas le même quotidien.
C'est pas la même personnalité. Mais la réalité, c'est que ce qu'il faut toujours avoir en North Star, c'est quoi la bonne décision pour l'entreprise. Donc, c'est qui les bons actionnaires pour l'entreprise et c'est qui le bon CEO. Et CEO, il est plus haut niveau. C'est important, soit qu'il soit remplacé, soit qu'il se fasse épauler, soit qu'il level up. Mais il y a une seule réalité, c'est que quand ta boîte grossit, le boulot ne fait que devenir de plus en plus dur. Il faut suivre. Et si tu ne suis pas, il n'y a rien de pire que pour une boîte. Je veux dire, si le CEO n'est pas bon, peu à peu, en fait, c'est terrible pour toutes les équipes parce que la boîte, en fait, peu à peu, tu vois, se referme, se renferme. Cette perte de contrôle, cette peur de la perte de contrôle, je trouve qu'elle n'a aucun sens, en fait. Elle est très irrationnelle.
C'est quoi un mauvais CEO ?
Oh, ça peut, c'est ouais, très très bonne question. Déjà, il y a un truc qu'il faut jamais oublier, c'est qu'il y a un facteur chance dans ce truc, dans ce milieu qui est colossal. C'est-à-dire que t'as des gens extraordinaires qui montent des boîtes extraordinaires, t'as des gens extraordinaires qui se plantent, t'as des gens nuls qui montent des boîtes extraordinaires et des gens nuls qui se plantent. Donc t'as toutes les cases de la matrice. Et donc déjà, faut pas oublier que évidemment on va juger sur les résultats et c'est normal parce que c'est du tangible. La boîte, elle est grosse, tu vois, elle a des clients, des références. Mais parfois déjà, t'as une question de chance, c'est que honnêtement, même chez Alma, on a eu des coups de chance au début. T'es là au bon endroit au bon moment. On serait lancé un an plus tard, on serait fait bouffer par le Covid. On s'est lancé un an plus tôt, le truc n'était pas encore assez chaud. Enfin, tu sais, il y a un moment, faut aussi reconnaître le fait que, probablement t'as été bon, probablement t'as fait un bon taf, mais t'as aussi eu de la chance, t'as su en profiter, mais t'as eu de la chance. Ça, faut juste toujours le garder en tête. Après, un bon CEO, je pense en tout cas à ce stade de la boîte, je pense que c'est essentiellement quelqu'un qui arrive à lire un peu le futur, autant qu'il peut, hein, qui n'a pas de boule de cristal, mais qui comprend un peu à quoi va ressembler le monde, qui est capable de le comprendre, qui est capable de l'expliquer et d'embarquer son équipe vers ce futur.
Moi, je pensais que tu allais poser la question, c'est quoi la différence entre un bon CEO et un mauvais CEO? On serait retombé dans le cas des inconnus et on ne va pas la refaire tout le temps.
Il y en a aussi beaucoup qui ne connaissent plus, tu sais, maintenant qu'on est des vieux.
Ben oui, voilà.
Comme tu vois le futur, ça ne nous empêchera pas à travers le futur de parler
du
présent.
J'ai dit qu'un bon CEO le voyait.
Écoute, mauvaise transition.
Je te laisse deviner.
Mais plongeons-nous dans un futur souhaitable avec cette rubrique. La question, c'est comment tu le vois, peut-être très largement, mais là d'abord plus spécifiquement pour Alma. Et je te propose de démarrer avec une question d'une femme que tu nous avais proposée pour passer dans Sista, mais elle avait déjà été choisie par Denis, le CEO de Believe. Nathalie Bala, elle a une question pour toi. Je te propose de l'écouter.
Vous avez un message.
Bonjour Louis, tu sais que je suis admirative de ton parcours. La question que je souhaite te poser, c'est de savoir comment tu te projettes à 5 ans, voire à 10 ans, et quelle est la mission que tu te fixes.
C'est une très grande question là. C'est la grande question. Je pense que la question qu'il y a derrière cette question, c'est évidemment la question du bonheur, c'est-à-dire que, en fait, c'est quoi le truc qui te rend heureux? Et ça paraît con, mais je pense que la plupart des gens se la posent pas, ou en tout cas, ils répondent pas. Et c'est triste, mais je pense que, tu vois, quand t'es passager de ta vie, c'est vraiment super triste.
Fameuse roue du hamster dont tu me parlais.
La fameuse roue du hamster dont je te parlais, c'est de te dire, il n'y a pas de jugement de valeur. Il y a des gens qui aiment faire des trucs qui, moi, objectivement, juste m'emmerdent au plus haut point. Moi, j'aime des trucs très bizarres, comme, tu vois, faire des maths le week-end, des trucs comme ça.
Injecting mushrooms.
Injecting mushrooms. Tu vois, je fais des... on ne l'a pas fait hier soir, mais tu vois, au dernier off-site d'Alma, on était un peu... on avait un peu picolé, donc j'aurais fait la démonstration de la diagonale de Cantor. Tu vois, ça me fait marrer. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très bizarre. Tu vois, c'est quand même ce mec qui a des hobbies un peu weird.
Je te confirme que c'est bizarre.
Voilà. Et, non, j'ai
j'aime
pas
bien, mais c'est bizarre.
Il faut être self-aware. Mais je pense que cette question de quand tu te projettes à 5 ou 10 ans et surtout en fait comment tu, qu'est-ce qui te rend heureux, elle est super importante et je pense que la réponse un peu globale, enfin dans mon cas en tout cas, c'est je suis malheureux le jour où j'arrête d'apprendre et donc finalement j'ai pas de...
A priori, ce sera jamais le cas tant que t'es curieux.
Voilà, exactement. Ouais. Donc mais c'est-à-dire que, tu vois, je vais pas te dire le truc du genre, moi, dans 10 ans, je veux que Alma, ce soit une boîte qui vale 100 milliards, et puis je veux avoir un truc de telle taille. En fait, ça, je m'en fous. C'est pas le sujet. Dans 10 ans, est-ce que je serai encore le CEO d'Alma ou pas? Je sais pas. J'aimerais bien parce que c'est hyper intéressant.
C'est pas le concours de celui qui a la plus grosse scale-up.
Exactement. C'est important de le dire. Tu vois, en tout cas, mon bonheur, il est pas du tout corrélé, à la taille de la boîte, à la croissance. C'est juste, par contre, il est corrélé énormément, à la qualité des gens à qui je bosse. Moi, ce qui me fait lever le matin, c'est de me dire que je bosse avec des gens qui sont meilleurs que moi dans leur domaine. C'est, tu vois, de bosser avec telle ou telle personne qui va bosser, je sais pas, sur des risques, sur la finance, et je dis, putain, en fait, je discute avec cette personne et j'apprends des trucs. Ça me fait lever le matin, et si un jour je bosse si on parle de monde professionnel, dans un milieu où j'arrête d'apprendre, où je me dis, voilà, c'est bon, je connais le playbook, et puis j'ai plus rien à apprendre, là, c'est le moment où je me projette plus, et c'est le moment où je me dis, ok, il est temps de trouver autre chose. Et je sais pas de quoi venir sera fait, tu vois. Peut-être, parfois je me demande est-ce qu'un jour je devrais pas refaire une thèse de maths ou un truc, enfin, whatever, quoi, tu vois. C'est un peu il y a tellement de trucs à apprendre dans le monde qu'en tout cas, je suis pas en train, ou alors je remonte une boîte, mais en fait, j'en sais foutre rien, mais ce que je veux, c'est être toujours en train d'apprendre. Et ça, c'est la partie pro, et la partie perso, c'est un truc qui est hyper important pour moi, c'est la famille, tu vois, c'est ma femme, mes enfants, et de se dire, alors c'est cheesy, mais c'est très vrai, c'est de se dire, tout ça, ça a un prix, c'est un coût que tu payes quand même de diriger ce genre de boîte, et je veux pas
en termes de
coût...
temps...
Mais en termes de ma fille qui me dit il y a deux jours,
je pense qu'on parlera,
boulot, quoi.
On parlera pas mal plus du perso, je pense, bon, tout à l'heure peut-être, parce qu'on a quelques questions qui vont aller sur ce terrain-là, et donc ça
s'intéresse. Et ben je garde de côté.
Tout à fait. Ben écoute, enchaînons avec une question de Maya, France Digital, toujours à la fois sur Alma et sur l'avenir du monde.
Vous avez un message.
Salut Louis, c'est Maya de France Digital. J'espère que tu vas bien. Ma question pour toi aujourd'hui est la suivante. Comment est-ce que tu concilies le business d'Alma avec l'impératif de responsabilité vis-à-vis des générations futures ?
C'est une bonne question. C'est une super question. Je pense que alors l'impératif de responsabilité, il prend pas mal de forme. Je pense que la forme à laquelle tout le monde pense, c'est bien sûr le côté un peu écologique, croissance, décroissance. On en parle pas mal, j'y pense pas mal aussi. Je pense que, en fait, il y a quelque part une sorte de, on pourrait dire presque de contradiction entre, d'un côté, l'obsession des startups de grossir le plus vite possible, t'as quand même la croissance, et de l'autre côté, une sorte de réalisation qui est que la croissance à tout prix, ça a pas beaucoup de sens. Alors je sais que tous les politiques t'expliquent que la croissance c'est important et que grâce à eux, il y en aura plus. Ils le font pour des raisons assez évidentes qui sont que la croissance règle beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'on se dit tous aussi que il y a un moment, tu vois, quand tu fais, je vais reprendre mes petites métaphores mathématiques, mais 1 plus X puissance N, si X est borné inférieurement, ça tend vers l'infini. Et la planète, elle n'est pas infinie. Pour le dire un peu moins bizarrement, on va dans le mur si jamais tu continues à avoir au moins 1, 2 ou 3% de croissance. Quel que soit le pourcentage de croissance, en vrai, at some point, ta courbe en hockey stick, elle doit devenir une courbe en S et plateau. Ça, c'est juste une contrainte physique de la Terre, quoi, si tu veux. Alors, on peut commencer à discuter de on a qu'à aller sur Mars, mais si on reste un peu sur Terre, sans mauvais jeu de mots, ça fonctionne pas. Et du coup, je pense que la grande question, et je t'avoue que j'ai pas une réponse complète, c'est de se dire aujourd'hui, c'est un peu la question de l'évolution et du remplacement. Je pense que en termes d'activité économique, je suis pas économiste, hein, j'y connais rien, j'ai pas fait l'analyse, donc je veux pas commencer à te balancer des grandes vérités du type il faut qu'on arrive à tel niveau de vie, je sais pas. Mais je sais que Alma grossit beaucoup plus vite que ne devrait grossir l'économie. Et je pense que ça, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que Alma, en tout cas aujourd'hui, représente plutôt le futur. C'est un peu cette évolution d'un produit extrêmement utile pour les marchands et pour les clients, qui est le BNPL, qui est une forme de crédit qui est utilisée et qui est vraiment, je veux dire, qui apporte de la fluidité, de la gestion de budget aux consommateurs et aux marchands. Et je pense que cette croissance, tu vois, elle est importante parce qu'on remplace des solutions, je pense aussi, plus vieilles, qui répondent moins à ses besoins, et probablement un jour, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je sais pas, c'est Alma qui sera la solution vieille, qui sera remplacée par quelqu'un qui a compris le truc d'après. Donc c'est comme ça que je le réconcilie. C'est-à-dire que t'as une sorte de croissance de ta boîte qui est en fait le petit truc dans un tout beaucoup plus vaste.
Alors, t'as un sujet sur la croissance de la boîte, et puis après, t'as un sujet quand même, et forcément, c'est lié à la consommation. On parlait de surendettement. Il y a aussi cette idée qu'on est incité à vouloir toujours la dernière pomme ou peu importe, enfin le dernier produit, ouais, dont on n'a pas forcément besoin, et que du coup un des outils, c'est évidemment pas le seul, c'est un outil de paiement fractionné, ouais, par exemple. Donc au-delà de ton business, et on comprend bien l'enjeu de le faire grandir et de répondre le mieux possible aux besoins et de vos clients et des leurs, ça doit questionner quand même.
Bien sûr. Non, c'est une vraie question. Alors, la question de la surconsommation et un peu du monde dans lequel on vit, où effectivement, t'es quand même poussé à acheter que ce soit la dernière pomme ou whatever, tu achètes beaucoup. Moi, personnellement, j'achète très peu de trucs. C'est assez bizarre. J'achète des fringues une fois tous les 10 ans, je refais un plein, et puis après, j'achète plus rien. Enfin, tu vois, ce genre de trucs, j'aime pas trop. Et je pense que le gros sujet, on y a beaucoup pensé, je pense qu'il y a des choses qu'Alma peut faire et doit faire, on y réfléchit, aujourd'hui on n'a pas d'action concrète, mais la vision j'en ai, c'est qu'en fait c'est plus politique et sociétal qu'une start-up. Je pense que le problème de la surconsommation ne sera pas réglé par une ou deux start-up.
C'est évident.
J'ai une idée en fait, Non, en fait, c'est aussi cette cascade de mi-50 qui se pose la question de la finance responsable, et donc du coup on pourrait penser au crédit responsable. J'imagine que c'est déjà des brainstorming qui ont pu exister chez vous, surtout que tu sais que t'es hyper créatif et foisonnant, et ça doit être cette envie de changer le monde. Et est-ce que du coup on pourrait pas imaginer que derrière la surconsommation ou le surendettement, qui a donné aussi à l'époque les subprimes, enfin il y a eu plein de cas dans l'histoire, disons, de la consommation, il y a eu des soucis qui ont pu être des risques systémiques au-delà du surendettement qui ont entraîné d'autres problèmes. Est-ce qu'on pourrait pas orienter le crédit ou le paiement fractionné, etc., vers, j'allais dire un truc qui a l'air complètement bateau, plutôt que de consommer plus, consommer mieux? C'est-à-dire, est-ce que ça pourrait pas être orienté d'une certaine façon dans certaines zones de consommation, faciliter aussi l'achat et la fluidité, la flexibilité, l'installment, ouais, dans des catégories qui préservent l'avenir, ouais, et ça.
En fait, c'est un peu là où je voulais en venir. C'est-à-dire que t'avais le point sociétal où je voulais juste dire, quand je parlais juste de la partie trop consommée, oui, je veux dire, si jamais on commence à parler du crédit, il faut aussi parler de la pub, parce que la pub, ça pousse à la consommation. Faut parler des process de production. Enfin, tu vois, faut parler de l'obsession qu'on a de la croissance, parce que si tu veux de la croissance de la production et de la consommation. Donc en fait, quand tu veux de la croissance, bah en fait, quelque part, c'est antinomique avec le fait d'empêcher la surconsommation. Donc c'est pour ça que je
complète, parce que c'est très important ce que tu dis. Effectivement, il y a beaucoup de surconsommation, ouais, voire de la surproduction, des marchés drivés par l'offre, de l'obsolescence programmée. Il y a plein de problèmes et de zones, mais par exemple, il y a même aussi juste le fait que la course au prix le plus bas a généré pas mal de soucis. On en a fait partie avec Price Mister, Amazon, ouais, ou autre, hein. Aujourd'hui, enfin, des sites que je citerai pas forcément, mais des sites à très très bas prix de produits de très mauvaise qualité, parfois d'origine asiatique,
peut-être,
ouais, par exemple, et que dont les adolescents maintenant se moquent. On en parlait la dernière fois, parce que c'est vrai que ça devient moins c'est cher, plus ça pousse. Alors, en fait, c'est pas forcément, enfin, à consommer. Et du coup, effectivement, si on te donne de plus en plus de facilité d'acheter de plus en plus de trucs moins chers pourris, on sait pas très vertueux. Donc il y a une dimension éducative.
Et c'est dans là où je veux en venir, c'est que t'as ce côté sociétal qui passe par des règles. On pourra parler de réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux devraient réguler le temps que les gens passent sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça n'a rien à voir, mais pour donner un peu le genre d'idée qu'on peut avoir sur le côté sociétal, d'imposer des règles. On te parle de sens programmé, c'est clairement un sujet politique qui doit traiter à ce niveau-là. Ça, c'est un peu le sujet global. Et après, t'as le sujet sociétal de l'éducation. Qu'est-ce que c'est de consommer déjà? On sort de cette société de consommation des années 70, où genre l'espèce des 30 glorieuses qui quand même portent très mal leur nom. Et ça, pareil, c'est un sujet d'éducation. Maintenant, je pense que ce que Alma apporte également, c'est justement cette montée en gamme. Si tu parlais on arrête de consommer plus, on consomme mieux. Et un effet qu'on voit vraiment chez Alma, c'est une augmentation du panier moyen, parce qu'en fait, les clients vont acheter quelque chose qui est plus cher et qui est de meilleure qualité. Et ça, pour le coup, tu vois, ça va dépendre des marchands, mais on observe une augmentation du panier moyen entre 40 et 60%, ce qui est vraiment... Et alors qu'il n'est pas en train de mettre deux vélos dans son panier, c'est juste qu'il prend le vélo qui est fabriqué de manière beaucoup plus pérenne, plus durable, et qui va durer 10 ans et pas 2 ans.
Il y avait un adage qui disait « j'ai pas les moyens d'acheter pas cher ». Je sais plus qui disait
j'ai pas les moyens d'acheter pas cher, exactement. Mais si tu veux, c'est exact. Parce qu'en plus, oui, acheter pas cher, ça coûte plus cher. Hein. C'est plein d'études qui te montrent qu'acheter de la qualité, c'est beaucoup mieux que d'acheter des trucs où tu n'en finis pas. Et donc, ça, c'est un effet qu'on voit du BNPL. Vraiment très, très fort de maintenant, en fait, on va monter en gamme, acheter mieux. Et d'ailleurs, à une époque, la tagline d'Alma sur une campagne de com, c'était Better is the new more. Ce qui était, voilà, c'est marrant. Et c'est vraiment important pour nous. On n'est pas encore, pour être très honnête, je pense qu'on n'est pas encore très mature et on n'a pas encore, tu sais, on est encore dans le day-to-day, dans cette espèce de pyramide de Maslow, mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut regarder de plus en plus.
Un dernier point avant de transitionner, on l'a évoqué, je crois, en tout début d'échange, tu as promis de répondre à tout et tu nous as prouvé que c'était le cas, mais ceci quelque chose que vous êtes imposé en interne chez Alma, je sais même pas si vous l'êtes imposé ou si ça s'est simplement fait ainsi, mais avec du coup beaucoup de réflexion. Alors c'est moins votre futur parce que vous y êtes dedans, mais quand même beaucoup de sujets qui sont peut-être des tendances d'avenir, en tout cas des questionnements qu'auront les entrepreneurs, notamment sur le temps de travail, sur la semaine de 4 jours, sur, je crois que vous comptez pas non plus les horaires. Enfin, je serais assez curieux de savoir comment tout ça se met en place et le fait qu'il y ait des sujets tabous ou pas, et je crois qu'il n'y en a pas un seul.
Non, on peut commencer par parler de transparence, je pense que c'est un sujet intéressant. Alors, transparence, c'est comme innovation, et on est le leader, c'est une des phrases que beaucoup de gens utilisent.
Et la bienveillance.
Voilà,
aussi.
Et la bienveillance, très important aussi. Je pense qu'en fait, si tu prends un peu un step back, alors, nous, on n'avait pas le choix, c'est-à-dire que Guillaume et moi, on est un peu pareil, on est à peu près incapable de mentir, même par omission, on arrive parfois à se taire, quand même, mais on a du mal. Et donc du coup, on a voulu aussi créer une boîte qui était une boîte de gens qui aiment ça. Parce qu'il y a des gens qui détestent, hein, et nous, on aime bien ça. Si tu prends, moi, alors c'est vraiment un trait de personnalité. Je me suis quand même mis sacrément dans la merde à certaines périodes de ma vie à cause de d'ouverture de bouche trop trop insistante, tu vois.
Je garde pour la partie 2.
Voilà, garde-le pour la partie 2. Mais tu vois, moi, je pense que la réalité, c'est que on est dans des sociétés où on est, tu sais, on a encore un peu cet ADN de l'animal qui veut montrer qu'il est fort, tu vois, le mâle alpha, etc. Moi, la alpha male culture, c'est un truc que je supporte pas, c'est à montrer que je suis plus fort. Alors j'ai plus de pognon, je suis plus grand, je suis plus, enfin whatever, je suis plus, quoi, tu vois. Et je pense que la vraie force, les gens qui ont vraiment confiance en eux, c'est les gens qui sont capables de se remettre en cause. Et en fait, quelque part, tu sais, le slogan, la politique de
la, je crois que c'était Mitterrand,
La confiance tranquille, c'est en fait les vraies
force
personnes,
tranquille,
la force tranquille, non, ou la confiance tranquille, c'est un peu ce côté pour l'état des gens comme ça qui, ils rentrent dans une salle, ils ont pas besoin de se la raconter, ils savent qu'ils sont bons, ils ont pas besoin qu'on leur dise, ils ont pas besoin de parler plus fort, de parler plus que les autres, et quand on leur dit qu'ils sont pas bons sur un truc qu'ils ont raté, ils voient pas ça comme une attaque sur eux parce qu'ils savent qu'ils sont bons. En fait, les gens qui ont vraiment confiance en eux sont les gens souvent les plus humbles. Donc tu vois, moi, c'est les fondateurs de Stripe m'avaient vraiment choqué là-dessus, quoi. C'est, tu te dis, les mecs, ils ont quand même réussi un truc pas trop dégueu, et vraiment ils se remettent en cause, ils ont aucun problème pour discuter, ils ont pas de tabou. Et tu te dis, bah ouais, effectivement, c'est des gens qui ont juste, parfois on a tendance à dire que, tu vois, la confiance en soi, elle est antinomique de quelque part, soit t'es
la modestie, l'alpha
male, donc la modestie, c'est l'inverse, la modestie et la confiance en soi, ça va vachement ensemble, parce que quand t'es vraiment ambitieux, en fait, les mecs sont vraiment modestes, c'est les mecs les plus agressifs. T'es les mecs de Stripe, c'est des fous furieux. T'es les mecs, juste leur boulot, c'est d'être genre les meilleurs du monde. Et ils se disent, je peux pas devenir le meilleur du monde si j'ai pas la modestie d'écouter quand on me parle et quand je me trompe. Donc les plus agressifs, les plus fous furieux sont souvent les mecs aussi les plus modestes. Et nous, c'est un peu cette espèce de truc qu'on essaye de créer chez Alma. On n'est pas parfait là-dessus, je pense, mais on essaie de créer cette culture de transparence et de se dire, tu vois, tu peux pas attendre des gens qui soient transparents si le patron de la boîte, il l'est pas. Et donc, par exemple, tu vois, alors je le fais un peu moins, encore que, on on a quand même quelques post-mortem en ce moment sur lesquels je vais contribuer, mais tu vois, quand je fais une grosse connerie, ça m'arrive assez souvent de communiquer ça à toute la team. Donc j'avais, par exemple, raté une négociation avec Stripe à une époque, c'était il y a 2 ans et demi, super négo, puisque les prix avaient augmenté. Quand tu négocies à ton initiative et que les prix augmentent, c'est que quand même, t'as grosso modo fait tourner le mauvais modèle Excel, et je l'avais utilisé comme exemple, tu sais, pour dire, bah voilà, en fait, ouais guys, en fait, le patron de la boîte, il est humain, et parfois il fait des bêtises, en voilà une, voilà pourquoi j'ai fait cette bêtise, voilà ce que j'ai fait pour régler le problème, et quelque part, tu libères, tu donnes de la confiance aussi aux gens qui se disent, je suis enfin plus dans un environnement où je vais me faire dézinguer parce que j'ai raté. Et ça, c'est hyper important parce que tu libères la créativité des gens, tu libères...
Ça déjà, permet de lever des stress, problèmes beaucoup plus rapidement aussi
bien
en
sûr,
interne.
Bien sûr, voilà, c'est ça. Sinon, tu veux surtout pas créer une culture où dès qu'il y a un problème,
c'est
tu sais,
sous le tapis,
voilà,
ouais.
Le roi auquel personne ne parle. Alors, tu peux pas y échapper, les gens ont pas trop envie de te donner leurs problèmes, mais voilà, je pense que t'as quand même vraiment envie d'aller de tendre vers cette culture où quand il y a un truc qui marche pas, on te le dit. Quand t'as foiré quelque chose, on te le dit parce que, bah, guess what, t'es pas parfait, quoi.
Les questions sur lesquelles vous n'aviez pas de réponse ou pas voulu répondre.
Ouais. Ouais. Oui, alors il y en a quelques-unes. On l'a régulièrement hein, chez Alma. Je pense que d'ailleurs c'est pas que chez Alma. Question sur la semaine de 4 jours posée de différentes manières, mais souvent l'itération habituelle.
Est-ce qu'on ferait 7 jours moins 3?
Voilà, exactement. la réponse facile, c'est attends, pourquoi tu fais au 4/5e? On est déjà au 5/7e. Et 5/7e, c'est plus petit. Bon, évidemment, une fois que t'as dit ça, t'as pas répondu à la question. Et je pense que c'est une typiquement, tu vois, sur cette question qu'on nous pose régulièrement, mais est-ce qu'on veut passer, est-ce qu'on se pose la question la semaine de 4 jours? Tu sais, on est très ambivalent parce que quelque part, je pense c'est une question qui est très légitime, et je pense que c'est un modèle. Humainement, tu te dis, tu vois très bien ce que ça va t'apporter, parce que en plus, soit tu te fais des week-ends de 3 jours, c'est trop bien, soit tu te le mets le mercredi, du coup, t'as jamais plus de 2 jours de boulot de suite. Enfin, tu vois, je pense que c'est probablement le sens de l'histoire. Après, je pense qu'il y a des moments d'une boîte où c'est beaucoup plus aisé de le mettre en place que d'autres. Pardon. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui se fait pas à la légère, parce que par exemple, un failure mode qu'on a vu dans certaines boîtes, c'est que tu fais la semaine de 4 jours. En fait, les mecs, ils bossent et qui vendent 5 jours en 4. Bon, là, si tu fais ça, en fait, t'as rien gagné, quoi. Juste, tu crames limite tes équipes plus vite qu'avant. Donc, pour l'instant.
Donc, ça veut dire que ce choix-là, il est d'accepter qu'on va grandir moins vite, voire avec un. Voire réduire un peu la voilure.
Alors. Ça en fait partie, et pas parce que t'as des mecs qui argumentent que, en fait, quand tu bosses comme un malade, tu te crames, et en fait, tu réfléchis pas bien, et que même les boîtes qui font la semaine de 4 jours sont plus efficaces. Et donc, en fait, vont produire plus, tu vois. Donc, en fait, la réalité, c'est que je pense que le sujet est hyper intéressant, et j'ai jamais eu le temps de me poser pour de vrai dessus. Je pense pas du tout que ce soit d'actualité chez Alma anytime soon, mais c'est une question récurrente, et je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra la traiter de front.
En tout cas, vous présentez comme ça vos équipes.
Ah, c'est comme ça qu'on en parle à nos équipes, ouais. J'aime pas trop le mot nos équipes d'ailleurs.
Ouais. Enfin,
aux gens
elles t'appartiennent pas, ouais.
Ouais, c'est ça. Équipes. Ouais. Ouais, non, je déteste les gens qui disent, tu sais, mon directeur commercial. Alors, en fait, il t'appartient pas. Non, c'est un truc, c'est une expression que je déteste.
Mais bon, c'est réciproque quand tu dis, tu peux dire mon patron, par exemple, à l'inverse. Donc ça va dans les deux sens. C'est une notion.
Ouais, c'est plus simple. Mais honnêtement. La sémantique est hyper importante.
Lui non plus n'appartient à personne.
J'espère en tout cas. Mais bon.
Je vous propose d'en rester là pour la première partie dédiée à Alma. Il est évident qu'on parlera toujours d'Alma quand même dans la deuxième partie qui était consacrée, Louis. Donc on se retrouve après ce jingle dans notre prochaine partie.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.